Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Julien. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un livre que vous avez écrit. Vous nous direz pourquoi, comment, quand, qui s'intitule « Voyage intérieur vers l'horizon ». Mais pour nos auditeurs, ce serait intéressant que vous vous présentiez peut-être dans un premier temps.
Alors, donc, je m'appelle Jean-Pierre Julien, je suis pasteur de l'Église protestante unie depuis plus de 30 ans. J'ai été pasteur à Montargis-Châtillon-Coligny, puis après à Montauban, après à Montpellier. Après, j'ai été président du conseil régional en Cévennes-Languedoc-Roussillon. Et là, actuellement, je suis sur mon dernier poste à Clermont-Lérault-Lamalou.
Merci. Qu'est-ce que vous avez envie, en plus, de nous dire, peut-être, pour que vos auditeurs comprennent le cheminement par lequel vous êtes passé pour aboutir à ce projet?
Oui. Donc, avant d'être pasteur, j'étais un athée. C'est-à-dire que j'étais persuadé que Dieu n'existait pas. Et vers l'âge de 28 ans, j'ai été rencontré par la parole qui m'a mis debout, qui m'a réveillé. Et depuis ces 32 ans, à peu près 33 ans, eh bien je suis au service de Jésus-Christ. Et il m'a fallu de nombreuses années avant de pouvoir écrire un tel livre. Car c'est un voyage intérieur, ça veut dire que vraiment, lorsque cette parole vous rencontre dans votre vie, il y a un chamboulement intérieur qui se met en place, et petit à petit grandit en nous une relation assez étonnante en ce Dieu de l'amour et puis l'individu au plus intime de lui-même.
Merci. Et du coup, vous avez axé ce projet d'écriture autour des trois notions d'un des commandements de Jésus.
Oui, le Dieu en qui on croit nous dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et je me suis rendu compte au fil du temps que la notion de cœur n'était plus comprise dans notre Église, ainsi que la notion d'âme et ainsi que la notion de force. Et donc j'ai entrepris l'écriture pour justement repréciser un petit peu la profondeur de ces trois termes, où le terme « cœur » n'a rien à voir avec le cœur qui bat dans notre thorax, où le terme « âme » n'a rien à voir avec ce qu'on imagine de l'âme, et où le terme « force » n'a rien à voir avec nécessairement la force qui nous anime. Voilà. Et donc l'objectif, ça a été déjà de repréciser ces notions bibliques, parce que beaucoup de personnes qui sont chrétiennes n'ont plus une habitude très poussée de la lecture biblique et parfois font des contresens rien que par rapport à ces trois termes. Après, quand le Christ nous dit d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et notre force, ça veut dire adorer Dieu de tout notre être, hein, c'est pas sorcier en soi. Mais les notions de cœur, d'âme et de force sont plus précises.
Et du coup, par quel cheminement êtes-vous passé pour pouvoir découvrir ou redécouvrir ce que ces trois notions pouvaient revêtir pour vous, dans votre cheminement à vous?
C'est On est dans un siècle de l'image. Et le siècle de l'image dans lequel nous sommes tous nous pousse constamment à nous mettre en avant. Et chaque fois que je discutais avec des gens par rapport à l'autre commandement qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Et beaucoup de personnes m'ont répondu « Mais non, je vais d'abord m'aimer moi, puis après mon prochain, et puis avec Dieu on verra par la suite. » Et je me suis rendu compte qu'on ne comprenait plus en réalité la réalité de ce commandement. Pourquoi aimer Dieu, puis le prochain, puis nous-mêmes? Et c'est ça qui m'a entraîné à réfléchir davantage à cette notion de cœur, d'âme et de force. Parce que pourquoi aimer Dieu? On aime Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, ou ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce cheminement-là.
Qu'est-ce qui, dans votre cheminement, a donné au titre cette direction de vers l'horizon?
Oui, c'est-à-dire que la foi n'est pas, la foi chrétienne n'est pas qu'une question de raison, d'intelligence, de réflexion. La foi est un dialogue intérieur avec une entité qu'on appelle Dieu, à laquelle on se confie, à laquelle on médite, Et c'est donc une relation dans notre intériorité. Et c'est un peu, je trouvais que c'est un peu ce qu'on a un peu oublié dans notre Église, l'Église protestante de France ou l'ancienne Église réformée, où on a tellement axé sur la rationalité qu'on a oublié que Dieu nous rencontre au plus intime de nous-mêmes. Et c'est ça, à mon avis, qui a poussé à écrire cet ouvrage et aussi ce titre, parce que cette rencontre dans notre intimité, et c'est lui qui nous rencontre dans notre intimité, fait que ça nous pousse vers l'horizon, donc vers l'extérieur, vers les autres, et c'est ça qui est intéressant.
Dans votre livre, vous passez par des supports, je dirais, que ce soit la randonnée, que ce soit la plage, etc. Est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu comment vous en êtes arrivé à ces supports?
Alors, c'est très mystérieux comment se construit un ouvrage. Hein. Là, j'ai eu un temps sabbatique dans notre église, plus les vacances qui ont suivi, qui m'ont permis de pouvoir écrire déjà matin, après-midi et soir, parce que c'est un réel travail que l'écriture. Et au fur et à mesure que je couchais des lignes sur ce texte, ça s'est mis en place petit à petit. C'est un peu mystérieux, moi ça m'échappe un petit peu aussi. Hein. Je pense qu'on est souvent inspiré, et je pense que ce livre est inspiré, puisqu'il touche des gens qui croient, des gens qui ne croient pas. Donc, à mes yeux, il est inspiré pour rencontrer beaucoup d'individus et pour les aider un petit peu à découvrir qu'ils ne sont pas seuls, au fond d'eux-mêmes, et qu'il y a une autre entité qui les accompagne. Et alors, pourquoi la randonnée? Ben, parce que j'aime la marche, tout simplement. Je suis parti de ce que je suis, hein, de ce que je vis. Voilà, la maison et l'imaginaire, parce que je pense que l'imaginaire, c'est très intéressant à... Ça entraîne des symboles. Le fait d'écrire, on parle d'une grotte dans cet ouvrage, on parle d'une maison un peu particulière, ou on parle de la mer, ça nous permet, à travers l'image, à travers les symboles, d'aller plus en profondeur en nous-mêmes. C'est l'intérêt de l'imagination. C'est qu'elle nous permet d'aller plus en profondeur et de toucher des choses qu'on n'imagine pas.
Est-ce que vous diriez que par votre cheminement, par la manière dont vous vous êtes approprié un passage biblique pour lui donner du sens, ça peut aussi être, dans votre relation avec des personnes non-croyantes, un appel, une source de possible pour eux à leur tour.
Oui, ça j'en suis convaincu. Après, c'est la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, nous, chrétiens, dans notre pays, en Occident, en règle générale, c'est que la foi chrétienne, soit elle est devenue quelque chose de moraliste, on le voit surtout aux États-Unis, mais pas que, en France de plus en plus, soit quelque chose de complètement, éthéré, très, très, très inquiétant, un peu délirant, quoi. Alors que la foi chrétienne, donc, on est dans une civilisation qui a évacué totalement la notion de l'existence de Dieu. Et lorsqu'on évacue totalement la notion de l'existence de Dieu, pour nous chrétiens, c'est compliqué de dire, ben, il y a une parole, parce que moi j'appelle ça plutôt une parole qui nous précède, une parole qui nous rencontre et qui nous permet de nous découvrir tels que nous sommes, de découvrir les autres tels qu'ils sont et de découvrir Dieu dans son amour et dans sa grande bonté. Et ce travail-là, ça oblige à relire en quelque sorte les quatre premiers récits de la Genèse, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, en lien avec la passion du Christ et surtout aussi en lien avec les réflexions de l'apôtre Paul par rapport à l'articulation entre le premier Adam et le nouvel Adam qu'il décrit comme étant le Christ, Jésus. Voilà.
Donc c'est intéressant parce que même quelqu'un de pas croyant peut-être avoir accès, en lisant la Bible, à un registre qui lui serait peut-être étranger, mais une parole, comme vous dites, pourrait, à un moment donné, le toucher.
Oui, si je prends mon parcours personnel, lorsque la foi est venue, avant que la foi vienne, je ne croyais pas en Dieu, donc. Et l'épouse de mon épouse, qui s'appelle Magali, qui est avec qui on a vécu depuis plus de 30 ans ensemble, un jour, on m'avait amené une Bible en français courant, et la foi n'était pas encore venue. J'ai ouvert cette Bible, j'ai ouvert le livre de la Genèse, j'ai ouvert la lettre aux Romains, j'ai rien compris. Et j'ai même jeté la Bible, je trouvais ça complètement stupide. Et donc, la chose n'est possible, à mes yeux, c'est que lorsque la parole de Dieu nous rencontre au plus intime de nous-mêmes, eh bien là, on se dit, il y a peut-être une autre façon de comprendre et de lire cette Bible. Je pense qu'il est important que nous sommes des témoins, nous les chrétiens. Si nous sommes des témoins d'amour, eh bien, peut-être les gens pourront se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et quand je dis les témoins d'amour, l'amour selon Dieu et non pas l'amour que nous entendons dans Les Feux de l'amour, série qui dure depuis, je ne sais pas, plus de 30 ans.
Donc ce n'est pas l'amour sentiment, mais plutôt l'amour action ou l'amour acte qui serait mis en œuvre dans une relation avec un autre. J'ai trouvé intéressant dans votre livre la sincérité avec laquelle vous abordez certaines étapes de votre vie, notamment où vous étiez en colère. Et vous avez, avec justesse, abordé cette question de la colère qui, à un moment donné, était la vôtre et peut-être de temps en temps encore la vôtre. Et comment vous pouvez être... Cette colère peut être revisitée par telle ou telle parole.
Oui. C'est-à-dire que être colérique au plus intime de soi-même, ça veut dire qu'il y a au fond de nous-mêmes un sentiment de profonde injustice. Et au lieu de réfléchir à ce sentiment de profonde injustice et de se dire, bon, d'où ça vient, comment c'est venu, on réagit par la colère. Et après, ce sentiment d'injustice, on le répercute sur le monde d'aujourd'hui, donc on est en colère avec le monde d'aujourd'hui, ceux qui gouvernent, etc. La colère est quelque chose de très néfaste, en réalité, au fond de notre humanité. Cela nous renvoie à Caïn et Abel, où vous avez ce très beau récit au chapitre 4 de la Genèse qui nous décrit Dieu qui accueille l'offrande d'Abel et puis ça n'a pas plus. Et puis Caïn n'est pas content du tout. Une sorte de profonde jalousie va dans son cœur. Dieu va le rencontrer dans son intime alors qu'il est profondément en colère. Et Dieu lui dit le péché est tapis à ta porte, domine-le. Et puis... alors que Caïn était rencontré par la parole d'amour, il n'en tiendra pas compte, et par jalousie, il va tuer son frère. Et je pense que la colère mène à ça, c'est-à-dire que la colère à la fois révèle nos jalousies par rapport aux autres, et elle peut détruire l'individu. Et donc c'est pour ça que la Bible le dit souvent, ne t'endors pas avec la colère dans le cœur. À nous de trouver les raisons de cette colère, et ne pas devenir l'esclave de cette colère.
Merci. Si on continue sur la palette des émotions, dans votre livre sort avec beaucoup de sensibilité ces notions de joie, de tristesse, de peur, colère, on en a parlé. C'est ce qui habite l'humain dans toute sa généralité, mais aussi dans son humanité. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces émotions qui vous habitent, qui vous ont habité? Et comment, grâce à la parole, justement, elles peuvent être revisitées?
Oui, alors ça, c'est lorsque la parole nous rencontre, on découvre que cette parole, quand je dis parole, c'est la parole créatrice, la parole de vie. On l'appelle Dieu, mais je préfère l'appeler parole. Lorsqu'elle nous rencontre, c'est une rencontre d'amour, dans le sens que Dieu n'est qu'amour. Ça, pour moi, c'est une certitude. Il n'est qu'amour. Il n'est que paix, il n'est que bienveillance, il n'est que douceur. Je ne connais que ce Dieu-là, moi je ne connais pas d'autres dieux. Et comme il est comme ça, ben, il nous apprend à tenir compte de ce qu'il est et d'être habité par ce qu'il est. Et comme nous sommes des êtres d'émotion, ben, nous sommes en capacité d'accueillir ce qu'il est. C'est-à-dire que sa paix, au fur et à mesure qu'on avance dans la foi, grandit en nous. La colère peut revenir, évidemment, à nous d'être vigilants et de ne pas devenir jaloux de ceci, de cela, à nous de ne pas chercher à acquérir ce qui ne nous appartient pas. Voilà, notre humanité est ainsi faite, c'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes les champions de la convoitise. Nous désirons plein de choses qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent aux autres. Et si on se laisse manipuler par ça, on va avoir une vie très compliquée. Voilà. Et donc la foi est intéressante. Lorsque elle rentre dans notre vie, elle nous rend vigilants par rapport à ça pour développer notre manière d'être en relation avec les autres.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette première partie. Je vous laisse introduire la pause musicale.
Oui, j'ai choisi un artiste qui s'appelle Smild, S-M-I-L-D. Il a écrit cette chanson qui s'appelle Arbre au monde. Je la trouve très belle parce que on est dans l'imagination là aussi, et il se met dans la peau d'un arbre qui accueille le soleil, la nature, etc. Et donc les paroles, je les trouve magnifiques, ainsi que la musique.
Tous accrochés à des racines, les pieds sur terre dans le fond, rêve d'étoiles sombres que le ciel nous envoie un signe. L'impression d'être hors ligne quand personne n'entend songer. Aucune somme, comme si on me découpait à la cime. J'aimerais te voir dans mes branches, que tu construises un nid pour y donner la vie. J'aimerais entendre du bruit. J'aimerais ne plus être étanche et ressentir la pluie qui arrose mes fruits pour vous en donner l'envie. Le soleil pour arroser mes nuits. L'arbre reprend la vie grâce aux rayons de soleil. Arbre monde a envie de vivre au soleil, sentir sa chaleur, devenir solaire, sans foi, sans loi, sans voix. Vivre au soleil, sentir sa chaleur, devenir solaire, sans foi, sans loi, sans voix. Les larmes sur mes feuilles qui goûtent tout le long du deuil, baissent les armes, on est au seuil. Regarde le bourgeon qui tombe dans le fleuve.
Regarde le bourgeon qui tombe dans le fleuve.
Regarde ce tronc qui rend la forêt veuve. Éteignez les flammes qui brûlent mon cœur. Le bois se noircit sans même que je le veille. Je ne ressens plus le mal dès que la fleur éclot. C'est mon gilet pare-balles. Donc le débat est clos. En aucun cas je m'immole. Soleil brille à l'éclat. Soleil brille à l'éclat. Un rayon de soleil pour arroser mes nuits. L'arbre reprend la vie grâce au rayon de soleil. Arbre de vivre au soleil, sentir sa chaleur, devenir solaire, sans foi, sans loi, sans voix. Arbre monde a envie de vivre au soleil, sentir sa chaleur, devenir solaire, sans foi, sans loi, sans voix. Tout le long du deuil, baisse les armes, on est au seuil. Regarde les bourgeons qui tombent dans le fleuve. Regarde ce tronc qui rend la forêt veuve. Éteignez les flammes qui brûlent mon cœur. Le bois se noie sans même que je le veuille. Je ne ressens plus le mal dès que la fleur éclot. C'est mon gilet pare-balles, donc le débat est clos. En aucun cas je m'immole. Soleil brille à l'éclat. Soleil brille à l'éclat.
Nous retrouvons notre invité Jean-Pierre Julien pour nous parler de son livre « Voyage intérieur vers l'horizon ». Avec vous, Jean-Pierre, nous allons continuer à cheminer dans ce registre qui a été le vôtre pendant plusieurs mois. Et vous parlez à un moment donné d'un verset de l'apôtre Paul qui dit d'arriver à haïr sa vie. Et vous posez très bien la question, mais pourquoi je dois haïr ma vie ?
Alors, je pense que c'est le Christ qui dit cela à ses disciples. Il leur dit, celui qui ne haït pas son père, sa mère, son conjoint, ses enfants et sa propre vie n'est pas digne de moi. Ça, c'est fort, venant de la part du Christ. Et bien, si on fait le lien avec tout à l'heure ce que j'ai dit avec Caïn, on découvre qu'au plus intime de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, notre vie est ainsi faite que nous avons un instinct de survie très développé. Et au fond de nous-mêmes, au plus intime de nous-mêmes, nous voulons survivre à tout prix. Et c'est ça qui est intéressant dans cette parole du Christ, c'est de prendre conscience qu'au fond de nous-mêmes, Il y a une vie qui n'est pas une vie tournée vers Dieu, mais une vie qui est tournée que vers nous-mêmes et encore moins vers les autres. Et cette vie tournée vers nous-mêmes fait qu'on veut être le premier en tout. On veut à tout prix gagner, on veut à tout prix s'imposer sur les autres, les dominer, les écraser. Nous avons un exemple terrible actuellement avec... c'est qu'un exemple, et je pense qu'il faut prier pour lui, avec Donald Trump, qui est effrayant par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, et dans sa relation avec les êtres humains. Mais je pense que c'est cette vie-là qu'il faut haïr, c'est-à-dire une vie qui cherche à écraser l'autre, qui nous entraîne à tout prix à vouloir dominer l'autre. Cette vie-là est à haïr. Et une vie qui est à accueillir, c'est la vie du Christ, qui est en chacun de nous. Et ça, et la vie du Christ est le don de soi, le don envers les autres, la solidarité, etc. Et je pense que dès qu'on est conscient qu'il y a cette réalité en chacun de nous, dès qu'on est conscient que le Christ est venu nous délivrer de cette vie-là qui nous conduit dans un mur, ben les choses commencent à changer petit à petit.
C'est pour ça qu'il faut peut-être démystifier le verbe haïr.
Oui, oui, c'est plutôt... c'est choisir en réalité une autre... Il y a un acte qui est de « je ne vais pas suivre ce chemin-là, qui mène nulle part, je vais suivre un autre chemin ». Mais le mot « haïr » a sa puissance dans le sens où on le retrouve dans les proverbes, dans la compréhension « quelle est la crainte du Seigneur ?». Ça aussi, ce mot « crainte du Seigneur » n'est plus compris aujourd'hui. La crainte du Seigneur, dans les proverbes, c'est la haine du mal, la haine du mensonge. Donc si c'est haine, c'est une manière de dire « c'est stop, je ne veux pas entrer dans là-dedans ». Voilà, je refuse cela. C'est lourd. Donc il faut attendre plutôt un acte, comme vous disiez tout à l'heure, chère Anne-Marie, c'est un acte qui dit non à cette violence qui est en chacun de nous.
Dans votre livre, vous vous êtes appuyé sur deux théologiens.
Oui.
Extrêmement intéressants, mais peut-être inconnus. Oui. Irénée de Lyon et Maxime le Confesseur. Oui. Que pouvez-vous nous dire sur chacun de ces deux théologiens quelque part qui vous ont aidé à cheminer?
Oui, alors Irénée de Lyon en premier, c'était une belle découverte quand je faisais des études de théologie. Donc en réalité, il y a plein de théologiens qui m'ont influencé, que je ne pouvais pas citer dans un petit ouvrage comme ça. Mais Irénée de Lyon, l'intérêt d'Irénée de Lyon, c'est... il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Contre les hérésies » et à partir des chapitres 4 et 5, 3, 4, 5, il a des paroles extraordinaires qui m'ont beaucoup nourri au niveau de la foi. Et c'est ça que je trouvais intéressant chez Irénée de Lyon. Parce que les pères de l'Église, que ce soit Irénée de Lyon, que ce soit Maxime le Confesseur, ont gardé une nourriture biblique que nous avons un peu perdue. C'est-à-dire que notre nourriture est de moins en moins biblique, elle est tout de plus en plus reliée à des sages, forçage, psychanalyse, etc., etc. Mais ce décrochage de la parole biblique, pour moi, m'a posé question dès le début de mes études de théologie. Et je pense que nous sommes appelés à faire vraiment un retour à l'interprétation beaucoup plus spirituelle des écrits de la Genèse et de toute la Bible en général. Quoi. Voilà. Et donc, Irénée de Lyon m'a aidé à comprendre que ce récit de la Genèse, par exemple, c'est une parole qui nous rejoint. Plutôt que de m'attarder à dire ben, « ça a été écrit par telle source, etc. etc. » qui m'a, à la longue, intellectuellement, ça a mené, oui, je me sentais plus intelligent, mais spirituellement, je ne me sentais pas nourri. Et donc l'apport d'Irénée de Lyon, c'est que ça amène une nourriture spirituelle. Et pareil pour Maxime le Confesseur, les ceinturies de l'amour, parce que lui, c'est son projet, on pourrait dire, c'était l'amour. Et c'est une de mes prières que j'adresse à Dieu, c'est apprendre à aimer comme il aime, quoi. Voilà, parce que je pense qu'on est sur cette terre pour apprendre à aimer comme lui, il aime. Et si nous, on arrive à faire ça, nous les chrétiens, si on arrive à le vivre, eh bien, je pense que les gens se poseront plus de questions sur l'existence de Dieu.
Merci beaucoup. Vous avez dans ce livre mis, je trouve, une place très juste et nécessaire à des temps importants pour l'être humain. Qui sont les temps du repas, du repos, de la convivialité, dans lesquels il y a vous, déjà, et puis il y a les autres, et puis il y a l'autre avec un grand A. Cette relation, donc, très personnelle, très intime avec Dieu. Est-ce que vous pourriez nous l'illustrer autour d'un repas communautaire que vous avez vécu ?
Oui, c'est depuis pas mal d'années maintenant, lors de la semaine de Pâques, j'ai organisé avec l'église qui m'accueillait le Jeudi Saint. C'est-à-dire, le Jeudi Saint, c'est on mange tous ensemble le soir et on partage le repas. Et dans la joie, parce que c'est dans la semaine de Pâques, donc c'est dans la joie. Et on faisait à la fois allusion à comment vivaient nos amis juifs cette Pâques. La Pâques à la juive, c'est le rappel de la libération de l'esclavage du peuple hébreu qui était esclave en Égypte. Et en nous rappelant de cette libération-là, on inclut aussi la libération qu'apporte le Christ, qui est une libération très intérieure de l'esclavage du péché, dit la Bible, de l'esclavage de la mort, de l'esclavage de la loi, et peut-être même de l'esclavage de nous-mêmes. Et c'est ça. Et donc, ce qui est assez merveilleux, je trouve, c'est la joie qu'il y a de partager un repas ensemble et de prendre conscience que, à travers le manger et le boire, Dieu nous rejoint au plus intime de nous-mêmes. Il nous dit de partager le pain en son nom, et donc le pain, ça devient son propre corps, ça devient sa présence, ça devient sa vie, son amour. Le vin, c'est un signe à la fois de sa protection, du pardon des péchés, comme on dit en termes bibliques. Voilà, et donc là, ce que je trouve capital, moi, c'est la convivialité autour d'un repas. Et pour moi, la scène doit être joyeuse. Alors que dans notre culture réformée, c'est dur de dire que la scène soit joyeuse, alors que c'est l'annonce d'une libération pour la génération qui est là aujourd'hui, quoi.
Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être il y a une confusion entre l'aspect solennel et la manifestation normale, normative, enfin importante de la joie en même temps?
Complètement. La solennité protestante réformée nous a un peu tués. C'est-à-dire qu'à vouloir être trop sérieux parce que c'est Dieu qui agit en nous, on oublie que Dieu, il est joie, il est amour, il est paix. Et donc, on n'a pas besoin d'être plus solennel que la moyenne par rapport à ça.
Dans le titre du livre que je rappelle et que je rappellerai, « Voyage intérieur vers l'horizon », vous dites à un moment donné de votre cheminement que Dieu, la parole, est l'horizon de chaque être.
Oui.
Et notamment peut-être de chaque être qui ne se s'est pas encore conquis.
Oui.
Par cette parole. Comment vous pourriez l'expliciter pour nos auditeurs?
Oui, c'est-à-dire que c'est la belle découverte que j'ai refaite aussi grâce à Irénée de Lyon, mais aussi grâce à Calvin, Luther, à tous les grands théologiens et théologiennes comme Suzanne de Détriche, comme Franz Quéré, parce que Marion Collard aussi. Parce qu'il n'y a pas que des théologiens, il y a beaucoup aussi de théologiennes. La grande découverte, c'est de comprendre que si on relie bien les premiers chapitres de la Genèse avec la passion du Christ, on comprend que le Christ est décrit comme un nouvel Adam. Si c'est un nouvel Adam, ça veut dire qu'il a revêtu le premier Adam symboliquement. Et s'il a revêtu le premier Adam, ça veut dire que toute l'humanité a été revêtue par le Christ. Et l'apôtre Paul a cette formule extraordinaire, il dit « Si un seul est mort, alors tous sont morts ». Sous-entendu, si le Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité des morts, ça veut dire que tous nous sommes morts au péché, morts à la loi, morts à tout ce qui nous rend esclaves, et que nous sommes vivants en Christ de par sa grâce, en quelque sorte. Et c'est ça que je trouve. Et donc pour moi, toute l'humanité, et je ne fais pas de distinction, a au fond d'elle-même cette présence du Christ ressuscité. Il nous appartient à nous de le témoigner, d'être les ambassadeurs de la joie, de la paix, de la bonne nouvelle, d'avoir confiance d'annoncer cela, et tout simplement, voilà. Et puis si les gens n'y croient pas, c'est comme ça. Et on espère que la parole va les rencontrer, tout simplement.
Merci beaucoup Jean-Pierre, et en cadeau pour nos auditeurs auditrices, je vous livre cette phrase de Jean-Pierre. « Nous sommes les mille et un reflet de ton amour, de ta bienveillance et de ta grâce. » Vous pouvez donc acheter ce livre « Voyage intérieur vers l'horizon » et je remercie Evan qui était à la régie. Merci Jean-Pierre, au revoir.
Merci Anne-Marie, au revoir.